est 20h31 sur Transistor. Vous écoutez le journal radiophonique amplifié numéro 48 du jeudi 28 février 2019. Journal mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Quel est le programme aujourd'hui, Rémi ?
Bonsoir Mathilde. Au programme, on commencera bien sûr avec un journal qui se terminera par un billet d'ailleurs. Marie nous emmènera au Nigeria. On continuera avec ta revue de presse, Mathilde, à 20h45. Puis, pour terminer cette première demi-heure, on retrouvera Julien pour un édito économique autour des travailleurs détachés. Puis après une dernière petite actu, nous passerons à la culture, une culture qui sera d'abord scientifique. Avec des espèces éteintes, ça sera avec Maxime, puis on passera au journal de la culture de Léa et Sarah autour de la place des femmes sur la scène littéraire. Et puis après une chronique musicienne avec Benoît et Maë, ça sera électro ce soir. On terminera avec un petit détour sur les ondes courtes et un fonds de soutien à la création radiophonique.
Mais tout de suite, le journal Rémi.
Effectivement, et on commence tout de suite avec la pollution, Maë.
Le beau temps est au rendez-vous, ce mois de février qui rappelle le printemps pour le bonheur des adeptes de vitamine D. En effet, un anticyclone réchauffe la température et provoque également le phénomène météorologique dit d'inversion thermique, qui a pour conséquence de faire stagner à faible altitude les polluants et particules que nous générons, et tout particulièrement en ville où le phénomène est particulièrement problématique. Voilà donc l'origine du pic de pollution hivernale qui touche le nord de la France depuis le week-end dernier et qui a poussé la métropole de Lyon à mettre en place une circulation différenciée aujourd'hui, c'est-à-dire que seuls les véhicules munis de vignettes Crit Air sont autorisés à circuler. Pour l'occasion, TCL a fait une promo sur les tickets de transport en commun et les places de parking sont gratuites pour tous les résidents. La fin de l'anticyclone prévue pour le week-end devrait évacuer l'air malsain plus haut dans notre atmosphère et nous permettre de recommencer à polluer allègrement.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et c'est à toi, Maxime.
Oh, pardon. C'est une nouvelle et vive ou ville polémique qu'a soulevé Decathlon il y a quelques jours en annonçant mettre en vente sur le marché français pour 8 petits euros un hijab de running d'ici mi-mars, couvre-chef sportif déjà vendu au Maroc. Après tout, qui n'a jamais été embêté par ses cheveux dans les yeux lorsqu'il courait ? Une polémique vive donc, mais courte, car deux jours seulement après cette annonce, le mardi 26 février, le géant du sport Discount s'est ravisé et a renoncé à commercialiser ce produit, prétextant assurer ainsi la sécurité de leurs équipes, équipes qui ont été menacées et insultées en magasin. Cette tempête d'indignation n'est pas simplement portée par quelques poignées d'intolérants décérébrés, mais également par de nombreuses personnalités politiques, majoritairement de droite, telles que la ministre de la Santé Agnès Buzyn, le président des Républicains au Sénat Gérard Larcher, mais aussi de gauche, avec la présidente du PS à l'Assemblée nationale Valérie Rabault. Et en des termes démontrant, outre de jolis amalgames, notamment entre le port du voile et la burqa, la femme et la République, mais surtout un refus très virulent d'autrui de sa culture, de ses croyances, que trop de médias se sont empressés de relayer.
Après une semaine d'incarcération, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été libérés avant-hier. Ils avaient été interpellés après ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact l'un avec l'autre. Quelques jours plus tôt, la commission des lois du Sénat avait rendu un rapport accablant sur l'affaire Benalla, mettant entre autres en cause trois hauts responsables de l'Élysée, Patrick Strauda, Alexis Kohler et le général Lavergne. La balle est désormais dans le camp de Gérard Larcher, enjoint dans le rapport à saisir le parquet, mais le président du Sénat devra composer avec la sensibilité du groupe centriste dont il a besoin pour conserver une majorité au Sénat.
Et l'usage du flashball par les forces de l'ordre lors des manifestations hebdomadaires du mouvement des Gilets jaunes est en question. Le Conseil de l'Europe, qui regroupe les représentants des 47 États membres de l'Union européenne, a publié un rapport sur le mouvement dans lequel il condamne l'usage du LBD 40. L'arme, symbole de la militarisation de la police et des violences policières, blesse et mutile depuis des années, a pris une autre ampleur depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Le rapport condamne également les autorités judiciaires qui ont trop recours aux comparutions immédiates et dénonce les nombreuses interpellations non légitimes. Le Conseil de l'Europe désigne ces pratiques comme des entraves aux libertés d'expression et de réunion. Face à ces condamnations, les arguments pro et anti-flashball s'affrontent, les uns vantant les mérites d'une arme protégeant les forces de l'ordre, quand les autres pointent une dangerosité disproportionnée et une atteinte au droit de manifester. Face à ces arguments, il n'en reste pas moins que le nombre de blessés augmente chaque semaine et que la réponse du gouvernement français est attendue par la communauté internationale.
Et on passe à l'international avec toi, Marie.
Et oui, on s'intéresse pour commencer au conflit qui oppose depuis plusieurs jours l'Inde et le Pakistan. Alors l'escalade de tension commence lorsque l'Inde annonce avoir mené des frappes dans le nord du Pakistan, près du Cachemire, sur le plus grand camp d'entraînement du groupe islamique Jaïch-e-Mohammed, et ce en réponse à l'attentat du 14 février contre 40 paramilitaires indiens, une des attaques suicides les plus meurtrières subies par l'armée indienne au Cachemire. Le lendemain, le Pakistan affirme avoir abattu deux avions indiens et capturé un pilote, avant que l'Inde ne revendique un affrontement aérien avec le Pakistan. Dernier accident en date, 4 morts dans un échange de tirs entre militaires indiens et pakistanais près de la ligne de démarcation qui sépare la partie indienne de la partie pakistanaise du Cachemire. Tous s'accordent à dire qu'il s'agirait d'une manœuvre politique du président indien Narendra Modi qui chercherait, à l'approche des élections générales prévues en avril, à renforcer sa rhétorique basée sur la défense de l'Inde face au Pakistan. Au cœur du conflit, le Cachemire, une région que se disputent l'Inde et le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique, une région séparée en deux, le nord pour le Pakistan et le sud pour l'Inde. Le Pakistan est accusé de financer mouvements indépendantistes et militants qui combattent les forces de sécurité de l'Inde, et l'Inde, qui a fait du Cachemire la région la plus militarisée du monde, veut mettre fin à l'autonomie de cette région de l'Himalaya. Bref, des affrontements encore nombreux qui renvoient à une situation très complexe.
Il faut parfois décider de quitter les négociations. C'est par ces mots que Donald Trump a annoncé l'échec de sa rencontre avec Kim Jong-un tout à l'heure à Hanoï. Alors que des annonces concrètes étaient attendues 6 mois après un premier sommet à Singapour. Mais la demande du leader nord-coréen d'une levée des sanctions économiques américaines, inconcevable pour les États-Unis tant que la dénucléarisation du pays ne serait pas définitive et vérifiée, a conduit la discussion à un point de blocage. Un coup dur pour Donald Trump à 18 mois de l'élection présidentielle, peut-être une façon pour Kim Jong-un, d'accentuer la pression et de se poser en maître des horloges en attendant une prochaine étape des négociations.
Brève évocation maintenant de la situation en Algérie, où la population proteste contre la candidature pour un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et au pouvoir depuis 1999. Les Algériens ne veulent plus d'un président très peu présent, affaibli par des problèmes de santé répétés et contraint à séjourner en résidence médicalisée et à faire des contrôles médicaux fréquents à Paris et Genève. Pour le peuple en somme, il faut en finir avec Bouteflika et ouvrir la politique à d'autres personnes plus aptes à gouverner. Les manifestations qui durent depuis plus d'une semaine maintenant ont été réprimées et les journalistes voulant couvrir le mouvement ont été arrêtés hier, avant d'être relâchés il y a quelques heures. Luttant contre la censure qui leur est imposée, les médias nous permettent donc de suivre des contestations mouvementées qui montrent une volonté commune de changer les choses dans un pays excédé par l'absurdité de la situation et par l'absence d'un président trop diminué pour représenter quiconque.
Je suis ici pour dire au peuple américain ce que je sais du président Trump. Michael Cohen a tenu hier un discours à charge devant le Congrès, revenant sur les mensonges de celui qu'il décrit comme un autocrate, raciste, escroc, tricheur. L'ancien avocat personnel du président américain, ex-Hamdane, condamné à 3 ans de prison en décembre suite à des aveux de fraude fiscale, mais aussi à son rôle dans les négociations entre le candidat Trump avec Moscou et l'achat du silence de 2 maîtresses du futur président, a prolongé et confirmé ses aveux hier devant le Congrès, et à la question de savoir s'il y avait d'autres malversations encore inconnues, Michael Cohen a répondu sans hésiter oui, et un tribunal enquête sur celle-ci, affaire à suivre.
Un point maintenant sur les affaires de pédophilie dans l'Église, alors que se multiplient les révélations et les déclarations sur ce sujet extrêmement sensible. Le 17 février, le cardinal McCarrick a été le premier cardinal à être défroqué par le Vatican pour abus sexuels et plusieurs évêques ont été accusés d'avoir favorisé McCarrick tout en étant au courant de ses comportements. Plus récemment, le film « Grâce à Dieu » de François Ozon a été autorisé à sortir en salle et Frédéric Martel a publié « Sodoma » dans lequel il décrit un Vatican perverti par l'homosexualité et le pape François a ouvert le 23 février et pour 3 jours une réunion d'évêques du monde entier. Résultat, la pédophilie dénoncée comme étant, je cite, « un objet de Satan » et l'obligation pour les évêques de ne désormais plus protéger les prêtres fautifs.
Une réunion qui n'a pas empêché les révélations de se succéder. Le cardinal allemand Reinhard Marx, a admis que des documents ayant pu indiquer le nom de responsable avaient été détruits et a affirmé que l'Église ne devrait pas fonctionner avec des normes de qualité inférieures à celles de l'administration publique. Le cardinal australien George Pell, lui, numéro 3 du Vatican, a été officiellement reconnu coupable de pédophilie. Il aurait agressé deux mineurs de moins de 16 ans en 1997. Bref, les masques tombent et les choses bougent doucement. Une affaire sensible donc à suivre de près.
Et on passe aux billets d'ailleurs, toujours avec toi Marie.